La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Céline Géraud.
On est de retour en direct pour la semaine politique jusqu'à 19h avec ce soir Arthur Delaborde, journaliste au service politique d'Europe 1, Bruno Jeudy, rédacteur en chef à Paris Match, et Stéphane Alboui, directeur de la rédaction du journal du dimanche. Alors mercredi, je le disais, le premier vrai test pour la première ministre Elisabeth Borne, le traditionnel discours de politique générale à l'Assemblée nationale, très attendu. En attendant, cet après-midi, elle était au centre hospitalier de Pontoise pour une sortie remarquée, l'occasion pour elle de valider les mesures, les 41 mesures de la mission Flash, une mission commandée par Emmanuel Macron au président de SAMU Urgence de France, François Braun, pour éviter un été compliqué dans les services d'urgence. On l'écoute.
Ces propositions, ça se décline selon trois axes. Tout d'abord, ce qu'on souhaite, c'est que chacun puisse prendre le réflexe du 15. Le deuxième axe, c'est vraiment de mobiliser tous les professionnels de santé. Et on va leur permettre de faire des actes qu'ils ne pouvaient pas faire jusqu'à présent, mais pour lesquels ils ont toutes les compétences, par exemple, de renouveler une ordonnance sur des soins chroniques. Et puis on va continuer à mobiliser la télémédecine, qui est vraiment aussi une bonne solution, notamment dans des territoires où il peut y avoir une carence d'offres de soins. Et puis le dernier axe concerne l'hôpital. On veut encourager et reconnaître ces conditions difficiles du travail de nuit. Pour ça, on va expérimenter pendant 3 mois également un complément de rémunération et une augmentation de 50% de la rémunération pour garde pour les personnels médicaux.
Alors des mesures validées, arbitrées par la Première ministre, ça apparaît un peu comme ça, cette intervention. Stéphane Alboui, ça a un peu surpris parce que c'est vrai qu'il y a urgence, pour le coup aux urgences, oui. On le rappelle, 120 services qui sont obligés actuellement de réduire leurs activités dans toute la France, Bordeaux, Toulouse, Grenoble. Voilà, on met un pansement, c'est cosmétique, on fait patienter.
On ne met pas un pansement et ça n'est pas cosmétique, c'est nécessaire. Donc ça, je pense que tout le monde est à peu près d'accord malheureusement sur la situation de l'hôpital. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ait attendu un mois. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu une mission flash d'un mois pour des conclusions. Alors à titre personnel, dans notre journal, dans le JDD, on a écrit noir sur blanc ce qui a été annoncé. Là, il y a 15 jours, je crois que plusieurs personnes ont évoqué déjà ces pistes parce qu'elles étaient connues. Mmh. Et moi, je dirais que s'il y a une urgence aujourd'hui pour l'hôpital français, et particulièrement dans la situation sanitaire qu'on connaît, c'est peut-être est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion ? Parce que le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de ministre de la Santé.
Oui. Elle en était là sur la photo cet après-midi. Madame Bourguignon, elle s'en va.
On a une ministre de la Santé qui s'en va. On a une équipe autour d'elle qui ne sait pas encore avec qui ils vont travailler. Pour certains, s'ils vont être encore là dans 3 jours. Et on est dans une situation dont on dit tous les jours, on revoit sur les plateaux, dans nos colonnes, apparaître les spécialistes de l'épidémie qui nous disent à quel point c'est en train de remonter. Et il n'y a personne qui pilote.
Mais ce côté, on navigue à vue, Bruno Jeudy, voilà. C'est aussi dans l'air du temps, ça fait un moment qu'on attend. Alors là, il y a aussi cette histoire de vote de confiance, on ne le sait pas. Est-ce qu'elle va le demander ? Le mystère plane toujours, il a toujours eu lieu, on le rappelle, depuis 1993. Ça aussi, ça fait débat. Et on est dans un entre-deux qui commence à durer et à être un peu pénible.
Ce qui est frappant depuis la réélection d'Emmanuel Macron, il y a maintenant presque 70 jours, je crois même 70 jours, c'est ce démarrage poussif du quinquennat, et pour ne pas dire plus. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu cette longue période où Emmanuel Macron a mis 21 jours à nommer sa première ministre. Il a changé de choix en plus. Il n'a pas nommé celle qu'il avait choisie et il a nommé une autre, celle qu'il avait choisie initialement, mais il avait changé entre-temps. Enfin bon, voilà. Donc déjà, il y a eu ça qui a été une surprise. Ensuite, il y a eu ce gouvernement qui s'est mis en place, la période de réserve. Il aurait pu se passer des choses entre... il aurait pu avoir notamment la loi pouvoir d'achat aurait pu être mise en place plus tôt. Ça n'a pas été, le choix a été fait d'attendre les législatives. Et puis maintenant, il y a ces élections législatives qui sont quand même, qu'on le veuille ou non, un coup de tonnerre pour Emmanuel Macron parce qu'il est privé de majorité absolue et la donne politique est changée, incontestablement. On voit bien, maintenant, il va avoir des difficultés à trouver le bon dosage dans son nouveau gouvernement. Ça va être l'objet des tractations du week-end entre le président et sa première ministre et, on va dire, les responsables de la majorité parce qu'il va falloir élargir la base politique, trouver des LR qui peuvent rentrer, je ne sais pas si c'est possible, peut-être élargir aussi à des socialistes, des anciens socialistes, on verra, tout ça est un peu compliqué, et puis il y a cette difficulté pour la première ministre qui a fait des consultations, qui a cherché à voir ce qui était possible texte par texte, mesurer les possibilités d'abstention, mesurer les possibilités de voter un texte gouvernemental avec les différents groupes, alors évidemment sans doute pas avec les Insoumis, probablement pas avec les Rennes, encore que... plus sûrement avec les LR, qui apparaissent comme ceux qui sont les plus proches au moins sur les questions économiques avec l'exécutif. Donc, son premier obstacle, c'est confiance ou pas confiance. La sollicitera-t-elle mercredi ? À mon avis, sans doute pas, parce qu'elle ne dispose pas de la majorité absolue.
Ce serait quand même une première depuis longtemps, on le disait.
Ce serait prendre un risque. Et les LR qui ont dit qu'ils ne voteraient pas la censure, ne pas voter une censure, ce n'est pas la même chose que de voter la confiance. Elle ne serait pas là. Alors après, les insoumis qui crient, qui vocifèrent déjà, ce ne serait pas la première fois que ça arrive. Ce n'est pas un signe de grande assurance politique. Mais enfin bon, il y a au moins 4 ou 5 premiers ministres qui ne l'ont pas sollicité par le passé. Mais c'est vrai que depuis 1993, ils l'ont tous fait. Donc Elisabeth Borne sera sans doute privée de cette confiance, et ça augure sans doute d'une mandature, d'un début de mandature compliqué, épuisant pour un exécutif qui va devoir chercher cette quarantaine de voix qui lui manque, ou de faire baisser la majorité et d'avoir de l'abstention. Emmanuel Macron n'a plus le champ libre pour imposer ses textes. Alors en même temps, ça tombe pas si mal. Il avait quand même pas grand chose dans la besace. Hein. Il faut quand même le dire. Donc peut-être que c'est. Vous avez des ministres qui vous expliquent qu'il faut qu'on change notre méthode pour préparer les projets de loi. Peut-être qu'il faut associer en amont les groupes politiques et leur dire bon ben ça c'est possible. Construire la loi ensemble plutôt que vouloir l'imposer seul. S'ils veulent l'imposer seul, ça ne marchera pas.
Arthur Delaborde.
Oui, ce qui risque de manquer, je pense, c'est peut-être cette culture de la coalition. Et finalement, plus que la culture de la coalition, c'est la culture de la négociation. Donc, on voit, ce qui semble se dessiner, c'est que l'exécutif prend en main des dossiers qui sont plutôt consensuels, le pouvoir d'achat, la situation sanitaire. Mais il y a bien un moment où il va falloir entrer dans le vif du sujet, c'est s'attaquer ça. Aussi à d'autres réformes. Et finalement, le Parlement qui redevient central, ça va obliger à trouver un autre chemin pour le pays que ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Est-ce qu'on va y arriver du fait de cette absence de culture de la négociation ? Ça, c'est l'avenir qui va le dire. Mais sur ce plan, peut-être que finalement la proposition d'Emmanuel Macron de Conseil national de la refondation, qui a été vraiment moquée au moment où il l'a mise sur la table, ça va peut-être finalement
être une solution.
Oui, voilà. Une des solutions en tout cas qui est.
Ce qui est sûr, c'est que Elisabeth Borne voit le président aujourd'hui pour lui présenter donc sa feuille de route avant son grand oral à l'Assemblée mercredi. Le premier dossier étudié. La restitution des concertations menées avec les présidents des différents groupes. Elle doit aussi remettre au chef de l'État ses propositions pour le remaniement à venir. On le rappelle, il y a 3 ministres sortants, plus donc Yael Braun, privé, Damien Abad et Chrysola Zakharopoulou. Il y a pas mal d'incertitudes sur ces 3-là. Cet ajustement technique devrait aller bien au-delà. Bruno Jeudy, vous avez des informations peut-être ?
Alors oui, vous avez à peu près cadré. Hein. Il y a déjà les ministres perdants à remplacer, ça c'est sûr. 3 femmes. Hein. Donc au passage, va falloir. On sait que c'est toujours une difficulté quand même dans la formation des gouvernements, hélas, mais c'est comme ça, c'est ainsi. Après, il y a les cas, vous l'avez dit, de cette ministre en charge de la coopération. Il faudra voir ce que. Mais le cas le plus compliqué, c'est celui de Damien Abad, qui va devoir être tranché. Et là, entre maintenant et l'annonce du nouveau gouvernement, il sera tranché.
Il y a eu une enquête qui donc a été ouverte. Il y a effectivement c'était la nouveauté.
Une plainte et une enquête.
Oui.
Une plainte et Elisabeth Borne, quand elle a fait sa première réaction après les accusations portées contre son ministre Damien Abad, elle a dit à l'époque, et ça a beaucoup surpris, ce que n'avait jamais dit aucun de ses premiers ministres, en tout cas les 2 prédécesseurs, elle a dit, mais en cas de nouvelle plainte. Il faudra revoir la situation. Grosso modo, je le fais comme ça. En privé, elle le dit elle-même qu'elle ne le soutient pas, qu'il devrait démissionner de lui-même. Ouais. Et elle a eu des propos avec lui qui étaient...
Elle ne le traite pas de boulet.
Oui, elle a eu des propos avec lui qui étaient sans ambiguïté. Il le sait. Lui dit en privé qu'il a des signaux positifs de l'Élysée. Il a été réélu à 58%, ce qui est plutôt une bonne... donc il a plutôt franchi cet obstacle-là, ce qui n'a pas été le cas de tous les macronistes et même de tous les ministres. Donc maintenant, la question, elle est entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne.
C'est du 50-50.
Elisabeth Borne en fait une affaire un peu d'autorité aussi dans cette affaire, parce qu'elle estime que ça a abîmé son début, son installation à Matignon. Et je pense que c'est du 50-50. Ça, c'est ce que dit plutôt Damien Abad, qui sait que, lui pense que politiquement, il peut agir. Mais on voit bien que dans la majorité, ils seront peu à le soutenir, puisqu'il vient, pour nos auditeurs, pour faire simple, il était le chef de l'opposition parlementaire, puisqu'il présidait le groupe LR. Et aujourd'hui, il a rallié les macronistes. L'affaire lui tombe dessus et les macronistes ne se précipitent pas pour le soutenir.
Ça, c'est sûr. Stéphane Albouy pour le JDD.
Mais pour être très clair, d'ailleurs, beaucoup au gouvernement, en tout cas un certain nombre, espéraient qu'il perde aux législatives. Ce qui aurait réglé le problème. C'est-à-dire, il perdait, il ne pouvait pas se représenter, il était empêché comme d'autres, comme la ministre de la Santé, comme la ministre de l'Outre-mer, etc. Et donc, ça aurait été réglé. Donc, c'est un secret pour personne. Il est très mal installé. Il est empêché. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas entendu. Tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas de pilote au ministère de la Santé. En ce qui le concerne, on n'a pas entendu une proposition. C'est impossible, il est inaudible. Donc, effectivement, Elisabeth Borne, depuis le début, dit que c'est quelque chose qui, elle aussi, l'a empêché d'agir d'une certaine manière. Alors après, ce remaniement, c'est aussi une opportunité, je dirais, pour donner d'autres signaux qui ont été donnés à travers le premier gouvernement. Elisabeth Borne, c'était un petit peu un signal un peu à gauche. Donc, et on le voit, on passe d'un côté. Et là, ce serait plutôt intéressant de donner quelques signaux à droite. Bruno Jeudy, tout à l'heure, parlait de Catherine Vautrin, qui avait été pressentie pour être première ministre. Et puis on s'était dit, Catherine Vautrin, c'est plutôt à droite. C'est peut-être mieux de donner un signal à gauche. Aujourd'hui, des profils comme Catherine Vautrin, ce serait peut-être intéressant qu'ils intègrent le gouvernement, parce que justement, à l'Assemblée, la proximité aujourd'hui, elle est avec les Républicains, et pour faire voter un certain nombre de projets de textes, c'est là que ce serait sans doute intéressant pour le gouvernement.
Mais de toute façon, je pense que dans ce gouvernement remanié, qui va sans doute comporter entre 5 et 10 ou 12 nouveaux ministres, il y aura des Modem et des Horizons. C'est les partis de François Bayrou et Édouard Philippe qu'il faut conforter. On entend François Bayrou beaucoup se plaindre, et quand il se plaint, il faut rapidement calmer le jeu, parce que ça peut, mal aller. Mais je pense que sans doute que du côté de l'Élysée, on réfléchit aussi à élargir à des Républicains. Alors, peut-être pas des députés Républicains, des députés LR, parce que de toute façon, on voit bien que c'est compliqué pour eux. Ils viennent d'être élus face à des marcheurs. Oui. Donc, il y en a peu qui sont prêts à y aller. Et ce serait peut-être pas le bon signal
à
envoyer.
Mais des Horizons, oui, parce que c'est le sas de décompression.
En revanche,
entre les deux.
Des élus républicains, élus locaux républicains, des maires, il y a des noms qui circulent, Gilles Averrousse, le maire de Châteauroux, Franck Louvrier, le maire de La Baule, Maël de Calan, le président du conseil départemental du Finistère, Christelle Morancet, qui a déjà dit non, qui est la présidente de LR de la région des Pays de la Loire, mais on peut aussi élargir à Jean Rottener, le président de la région Ouest. Il y a des noms qui circulent, je ne sais pas si ce seront ceux-là, mais ces noms-là, on sait que l'Élysée les a regardés. Caroline Cailleux, mais qui a quitté les LR, je crois, qui est la maire de Beauvais. Tout ça, ce sont des noms possiblement entrants. Donc c'est plutôt de ce côté-là, c'est vrai. La logique, ce serait d'envoyer un signal à droite après avoir peut-être envoyé trop de signaux à gauche, ce qui a déséquilibré le « en même temps » et a fait qu'ils ont eu un résultat qui n'a pas été satisfaisant pour Emmanuel Macron.
Ouais, il a promis un gouvernement d'action au service de la France, Arthur Delaborde, du service politique d'Europe 1.
Il
va falloir tenir la promesse.
Exactement, mais là, ça va surtout se jouer au Parlement. On en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Et ce qui va être intéressant à suivre, c'est de savoir si les parlementaires vont être capables de se mettre d'accord. Et le défi, c'est d'être en mesure de sortir de cette configuration politique. Et je pense que finalement, c'est l'opinion qui pourrait pousser à la sortie de crise. Par exemple, sur un dossier comme les retraites, on imagine que eh bien, l'électorat des Républicains va quelque part pousser à un consensus quand le dossier va arriver sur la table. Donc en fait, on évoque beaucoup la responsabilité des politiques, mais je pense qu'aussi ça va au-delà, et c'est la responsabilité quelque part des citoyens. C'est vraiment notre culture à tous qu'il va falloir changer dans cette configuration politique, sinon eh ben, il ne va rien se passer pendant 5 ans. Et on entend d'ailleurs beaucoup le gouvernement, vous évoquiez le gouvernement d'action, dire que les Français ne veulent pas de l'immobilisme. Et ça, je pense que c'est vrai, encore une fois, ça appelle à un mouvement d'ampleur hein, au sein de la société française.
Stéphane Albouy du JDD.
Oui, juste, il faut se méfier des éléments de langage. Et c'est vrai qu'ils ont jeté ça. Alors, enfin, c'est pas tout nouveau, hein, le gouvernement d'action, hein, quand même. Mais bon, c'est un gouvernement d'action, ça veut dire que quoi, c'était un gouvernement d'inaction avant. Enfin, là, en l'occurrence, oui, depuis quelques semaines,
ça,
on est
clair.
Dans un gouvernement d'inaction.
Stéphane, dans votre propre baromètre que vous avez publié dimanche dernier, il baisse, l'exécutif baisse, et il paye probablement l'inaction que les Français lui reprochent.
Bien sûr. La parenthèse internationale aussi, qui fait que le président disparaît un peu des écrans radars.
Alors, il y a là-dessus deux choses. Effectivement, dans les choses qui se mesurent et qu'on regarde en ce moment et sur les codes de popularité, il y a aussi quelque chose d'intéressant qui est apparu dans un autre baromètre, c'est pendant ce temps-là, je dirais, Marine Le Pen se porte très très bien. Son opération de respectabilité, de crédibilisation marche à plein feu. Elle est aujourd'hui, selon un baromètre du jour des Labs, en deuxième position chez les Français.
Plus, derrière, 7, plus 7 dans, plus, le, dans l'IFOP Paris Match cette semaine.
Derrière Édouard Philippe. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui...
Avec deux vice-présidents, on va
bien
le rappeler.
Sûr,
hein,
c'est quelque chose qu'il faut regarder. Et puis après, effectivement, vous parliez de la séquence internationale du président, de son absence, etc. C'est peut-être plus profond que ça, d'ailleurs, parce qu'en fait, on a dit qu'il a utilisé ça. En fait, Emmanuel Macron, s'il y a bien quelque chose sur lequel il n'a pas varié, c'est sa position à l'international et notamment sa position vis-à-vis de l'Europe. Voilà. Et donc, là, pendant 6 mois, il faut reconnaître qu'il a été à une affaire qui le passionne et où il n'a pas fait du « en même temps », puisque l'Europe, il en a parlé dès le début dans sa campagne de 2017. Et là, il était à la manœuvre de quelque chose qui compte pour lui, qui est essentiel pour lui. Et je pense qu'au-delà de l'analyse politicienne qui est de dire qu'il s'est servi de ça, je pense qu'il était sur un sujet qui l'a passionné, qui l'a beaucoup occupé. Peut-être qu'il va revenir un peu plus aux affaires maintenant. Mais ce qui est certain, c'est que pendant cette présidence européenne, il s'est sans doute épanoui de...
Oui, mais
de
c'est la, aussi...
Qu'il a lâché, on le rappelle, le 1er juillet, c'est
sûr,
désormais la République tchèque qui est à la
présidence. Et c'était peut-être pas mal que la France
européenne.
Soit à la présidence pendant cette séquence avec ce qu'on a connu en Ukraine et ce qu'on connaît en Ukraine.
De toute façon, il y a une pente naturelle des présidents de la République sous la 5e qui est de se passionner parce que c'est le domaine, ce qu'on appelle le domaine réservé, les affaires internationales les accaparent. On dit toujours que ça occupe à peu près 50% de leur temps utile. Parfois, la difficulté, c'est que dans le deuxième mandat, ils ont tendance même à augmenter cette part parce qu'au fond, ils se rendent compte que sur le plan intérieur, ils ne peuvent pas forcément réussir sur tous les fronts ou ils réussissent souvent un petit peu moins. Et que du coup, on a bien vu tous les présidents sur leur deuxième mandat faire beaucoup d'international. Ce fut le cas de Jacques Chirac, ce fut le cas de François Mitterrand, alors moi, avec la parenthèse de la cohabitation. Et Emmanuel Macron, sans doute, sera aussi dans ce cas-là.
Avec une posture différente. Vous avez tous vu cette séquence assez incroyable où il interpelle Joe Biden en marge du G7, arrive.
Il ne se rend pas compte qu'il y a des caméras.
Mais, je ne sais pas s'il ne s'en rend pas compte, mais est-ce que ça ne vous a pas interpellé? On fait un rapide digression là-dessus.
Il y a cette conversation qui est saisie par des reporters. En gros, Emmanuel Macron interpelle Joe Biden pour lui signifier qu'il a eu, je crois, un dirigeant des Émirats, pour essayer d'agir sur l'OPEP
et la question
du pétrole, hein, puisque bon, c'est essentiel d'essayer de faire baisser le prix du pétrole. Donc il y a une discussion qui, sans doute, ne devait pas être dans le domaine public. Oui, c'est une discussion intéressante.
Mais c'est surtout la posture qui est un peu étonnante parce que c'est pas tenu, quoi. Il est en bras de chemise. On voit le président américain qui l'écoute, qui ne dit pas un mot quand même. À un moment donné, on va peut-être le dire à l'intérieur. Enfin, ça fait un peu chien fou, non? Vous n'avez pas trouvé, Stéphane Albouy du JDD?
Pas particulièrement. Je crois encore une fois, je crois que il a toujours, enfin, il l'a manifesté à de multiples reprises. Je crois que c'est son domaine de prédiction. Je crois qu'il s'est vraiment Il est passionné par ces affaires-là. C'est le seul domaine dans lequel il n'a pas varié. Mmh. C'est effectivement son positionnement au niveau international, sa passion pour l'Europe. Alors oui, mais disons qu'à sans être méchant avec le président américain, par ailleurs, à côté de Joe Biden, on a vite fait de faire chien fou.
Ouais.
Parce que Joe Biden, c'est très posé.
Oui,
quand même.
C'est très posé. Ouais.
C'est un autre
style.
C'est
très encéphalo, très calme.
Voilà.
En tout cas, back to basic, voilà, retour aux affaires courantes. Et mercredi, évidemment, on suivra ce discours de politique générale de la première ministre Elisabeth Borne. Allez, on reste ensemble. Tiens, on va parler de la une, évidemment, de Paris Match, mais surtout du papier page 47 qui concerne justement le bal des débutants. 302 novices à l'Assemblée. On en parle. À tout de suite.